Claude, on parle pour commencer de quatre infirmières.
Qui à Narbonne sont l'enjeu d'une guerre entre deux hôpitaux, nous dit l'Indépendant. Deux infirmières de bloc opératoire et deux infirmières de nuit qui ont quitté l'hôpital privé du Grand Narbonne pour rejoindre le centre hospitalier public. Le patron du privé, Valérie Folcher, accuse le public de débaucher son personnel. Il ne peut pas lutter tant l'État donne de l'argent à ses hôpitaux. Le patron du public, Richard Barthès, réplique qu'il ne débauche personne et que lui aussi a des problèmes. Tiens, récemment, le groupe d'hôpitaux privés Elsan, auquel appartient son rival narbonnais, a essayé de lui piquer des chirurgiens et lui ne s'est pas plaint dans la presse. Bon, bah maintenant, c'est fait. Mais il faut résister à la tentation du sourire, car cette rivalité dit les malheurs de ceux qui nous soignent. Le Monde raconte comment des étudiants infirmiers abandonnent leurs études quand ils découvrent le dénuement de l'hôpital dans des stages où parfois des infirmières en poste les maltraitent, leur demandent ainsi de nettoyer un malade qui en réalité est un cadavre pour faire pleurer, pour dégoûter. On se dit que la méchanceté est un exutoire. Les urgences de Lille sont à bout de souffle, nous dit Nord-Éclair. L'Indépendant encore nous dit qu'à Carcassonne, le personnel de la polyclinique Montréal, elle aussi du groupe privé Elsan, est en grève pour une prime. Les soignants sont débordés par l'absentéisme, mais on opère quand même. Et à Narbonne, donc, nos deux hôpitaux rivaux partagent le même sens du devoir et la même fatigue. L'hôpital privé plaide pour son excellence en matière de cancer et ne veut pas déprogrammer des opérations. L'hôpital public voudrait que le privé lui prenne des malades du Covid pour le soulager. Simplement 3 malades sur 28. On regrette le temps des solidarités. Et ayant lu cette compétition d'hôpitaux étranglés, on ressent d'autant plus l'échappée belle, loin de notre solidarité fiscale, loin de feu notre impôt sur la fortune, de dizaines de grandes fortunes françaises que raconte Libération. Vous allez trouver dans cette enquête des noms célèbres, Schlumberger, Sédou, Hermès et d'autres moins connus mais qui résonnent dans notre histoire, des noms de vieille noblesse française, et vous lisez surtout le parcours astucieux de l'argent qu'on exfiltre. Il passe d'abord par les Bermudes, puis par le Canada, où repose dans des trusts quelques 4 milliards d'euros. Le trust, confiance en anglais, c'est une structure juridique anglo-saxonne qui permet à un particulier de transférer ses biens à une personne de confiance qui devient le propriétaire fictif mais légal du capital soustrait à l'impôt. Le mot vient du Moyen-Âge, quand un chevalier partant aux croisades laissait ses terres à un ami chargé de les gérer. Dans nos temps modernes, le trust a été les ruses de millionnaires que les enquêtes rattrapent. Libération nous dit aussi une dénonciation, des instructions judiciaires, des perquisitions, des batailles juridiques. L'histoire n'est pas close. Mais déjà Libé la politise, c'est ainsi, dit le journal, qu'on a rendu inefficace cet impôt sur la fortune qu'Emmanuel Macron, au nom de son inefficacité, a fini par tuer.
On parle aussi d'un bidonville.
Dans la Croix, loin de nos milliards. Allez lire l'odyssée de 40 000 personnes expulsées de chez elles, jetées à la rue, pour permettre la construction d'une route qui va relier, c'est utile, le centre-ville de Nairobi au Kenya à l'aéroport international. La route est construite avec une entreprise chinoise, nous sommes au cœur de la modernité, mais sur son ce chemin se trouvait Muluru Kanjenga, un bidonville grouillant de vie qui au fil des décennies était devenu comme un village et que les pelleteuses ont transpercé. Dans Le Monde, à nouveau, écoutez le grand archéologue Stéphane Rostin parler d'autres êtres humains que les puissants méprisent. Les peuples indiens de l'Amazonie, dont il dit à quel point ils sont civilisés, organisés, autant que les sociétés urbaines. Car l'Amazonie était déjà occupée par des hommes il y a plus de 13 000 ans, et en 13 000 ans, ces hommes ont modelé la forêt, qui est constellée de villages, traversée de routes, de canaux, épicée de bourgades, de foires, de champs surélevés, enrichie d'une terre noire que les Indiens fabriquent, un sol composite fertile, associé à des restes d'implantations, enrichi des débris d'occupation, de charbon et de cendres. Mais les Indiens se sont si bien fondus dans le paysage que leur apport pour les prédateurs passe inaperçu. Le Courrier Picard, lui, raconte des agriculteurs bio de chez nous qui perdent le fruit de leur travail quand le vent mauvais apporte sur leurs champs les pesticides des voisins. Ce sont les frères, sans le savoir, des Indiens dépossédés.
Et on parle enfin rapidement, Claude, d'élégance.
Et de celle qui l'attise dans nos ateliers de Falbala où vit un petit peuple oublié. Des femmes qu'on appelait jadis midinettes, car le midi, elles déjeunaient d'une dinette au jardin des Tuileries. Le Figaro nous raconte les ouvrières de la mode que l'histoire avait dissimulées au profit des grands couturiers. Mais on s'intéresse à nouveau à ces travailleuses qu'il y a un demi-siècle se battirent 6 ans pour obtenir un 13e mois. Des historiens, des livres, un podcast les racontent, et aussi le Figaro qui est chouette quand il fait du social. Dans la revue Vanity Fair, une dame depuis toujours d'élégance parle de son art et de l'amour et d'un regret. Isabelle Adjani se souvient de son histoire avec le réalisateur Bruno Nuitten qui se défie après leur film Camille Claudel, magnifique et ravageur. Elle a des phrases pour Nuitten, cet artiste qui, dit-elle, habite le mot que chacun d'entre nous peut souhaiter. Elle dit aussi cela, « La crainte qui m'étreint, c'est que l'un de nous demeure avant qu'on ait pu se reparler du cinéma, de la vie. » France Inter.